Quand on est jeune, le premier emploi, c'est enthousiasmant, c'est excitant, mais c'est aussi super stressant et angoissant. Beaucoup de jeunes ne se sentent pas assez préparés à leur entrée sur le marché de l'emploi, un marché qui évolue fortement, notamment avec les transitions écologiques et numériques, mais qui est aussi le reflet d'une société où l'égalité des chances n'est malheureusement pas encore une réalité. Alors comme chaque semaine, je vous propose d'écouter plusieurs jeunes évoquer leur parcours et leurs attentes. Je m'appelle Sarah Saadi Garcia et bienvenue dans l'Europe est à vous.
L'Europe est à vous. Le rendez-vous des jeunes avant les élections européennes. Un podcast du soir présenté par Sarah Saadi Garcia.
La seduta est aperta. Yo voy a votar.
Y tú?
Vota, 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 vota.
Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove.
Votez, 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 votez.
Ich wähle.
Und du?
Je vote.
Wahlen, wahlen, wahlen.
I vote.
President Thatcher. President Cox.
Ah, ya has votado. Tú sí que sabes.
Top.
Grande.
Je vote. Je vote.
L'Europe est à vous.
Moi, je m'appelle Bilal Fayad, j'ai 21 ans et je suis étudiant en sciences politiques à l'ULB. Angoissant plus qu'enthousiasmant parce que on ne sait jamais où est-ce qu'on va être pris. C'est super difficile de se trouver une place. Et généralement, ben, dans ce genre de situation, ce qui va jouer le plus, c'est le réseau et les contacts, ce qui désavantage énormément de monde. Et c'est, je pense, aussi ce qui est angoissant quand on en a conscience. Et je pense aujourd'hui que la valeur du diplôme a fortement diminué.
Je m'appelle Doha, j'ai 21 ans, j'habite à Molenbeek-Saint-Jean. Moi, j'étais mise sur le marché du travail via des formations, via des stages à l'âge de 12-13 ans. Parce que j'étais dans l'enseignement spécialisé. Du coup, en fait, dans l'enseignement spécialisé, c'est un peu comme le professionnel, on t'apprend des métiers. Et du coup, à l'âge de 13 ans, j'ai dû choisir entre le repassage, soit la cuisine, la collectivité, voilà, les grosses cuisines, les grosses casseroles, les grosses marchandises, les grosses viandes qui arrivent en tas, c'est pas la cuisine en restauration. Du jour au lendemain, je me trouvais avec ma petite tenue de cuisine, d'aller dans une entreprise pendant un mois, c'était un travail. Un mois en cuisine, 6h30, 15h30, parfois 16h30. Je dirais que c'est un taf que ouais, depuis que je suis jeune, que je fais gratuitement en fait. Je l'ai vécu un peu très mal, honnêtement.
Bonjour, je me nomme Karim Yeshou, j'ai 25 ans. Alors à l'heure actuelle, je fais un stage au ministère des Affaires étrangères et à l'heure actuelle, je vis à Ixelles. Stressant, oui, parce que beaucoup de gens comme moi ont postposé leur entrée à l'embauche en réalisant un deuxième master, par exemple, parce qu'on avait du mal à se projeter parce que peut-être les métiers ne nous intéressaient pas tant que ça et autres. Mais c'est vrai que moi, dans mon parcours, quand je pense à emploi, j'ai toujours été plus ou moins un peu en emploi depuis mes 16 ans, mais pas l'emploi avec le Saint Graal du CDI ou du CDD éventuellement, mais plus job étudiant, petit boulot à côté qui ne sont pas forcément déclarés, du ménage par-ci, des tâches par-là, donner des cours particuliers, moi ce que je fais à l'heure actuelle par exemple, et j'en passe. Donc l'emploi proprement parlé, ça reste quelque chose qui dans ma chair, je suis pas encore arrivé. Je connais les stages, je connais le job étudiant, je connais l'emploi non déclaré, je connais l'emploi précaire, mais le Saint Graal n'est pas encore là. Mais on le cherche.
Dans le cadre de la réalisation de cet épisode, j'ai également pu rencontrer et interviewer Marc Botenga, eurodéputé PTB, très investi des questions liées à l'emploi, à son accessibilité et à sa préservation. Bonjour Marc Botenga.
Bonjour.
En tant qu'eurodéputé, la création d'emplois, c'est un de vos gros dossiers?
Oui, si on veut la création d'emplois, aussi la non-destruction de l'emploi qui existe. Parce que il y a deux choses. Vous savez, je me rappelle que les gouvernements belges aiment bien parler jobs, jobs, jobs. Hein. C'était Charles Michel à l'époque qui maintenant est à l'Europe, qui parlait jobs, jobs, jobs. Mais en fait, ce qu'il faisait, c'était plus d'emplois mi-temps, flexibles, etc. Et il disait, ouais, on a créé de l'emploi. Ben non, vous avez surtout détruit des emplois, les coupé en deux. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui le voient, pour trouver un emploi, il faut passer par un intérim, une agence quelconque qui peut vous appeler n'importe quand, n'importe où, l'ultra flexibilité. En plus, il y a le mécanisme en Belgique, mais ça existe malheureusement dans différents pays, des emplois jeunes qui sont moins rémunérés. Je ne sais pas pourquoi un jeune devrait être moins payé pour le même boulot que quelqu'un d'autre. C'est pas de cette manière-là qu'il faut voir la création d'emplois.
Il y a clairement un problème d'égalité des chances. Mais déjà, juste en commençant l'université, il y a déjà un problème d'égalité des chances dès la première année, étant donné que tout le monde ne vient pas du même milieu socio-économique, tout le monde ne vient pas de la même école ou quoi aux caisses. Il y avait, avec des écoles beaucoup plus basses, des écoles beaucoup plus hautes, avec des niveaux d'éducation qui sont différents, des gens qui sont plus avancés que d'autres. Et donc, ça crée déjà des disparités à l'intérieur même de la première année. Et cette disparité va se ressentir d'abord sur tout le cursus universitaire et ensuite forcément sur le monde du travail, à part si la personne a vraiment de très bons contacts.
Malheureusement, si je dois vraiment faire la compétition de expérience et diplôme face au réseau. Il y a vraiment encore cette, l'ascendant de la cooptation, du je connais qui est bon, etc. Ça reste primordial, malheureusement. On peut avoir tous les bons diplômes qu'on a si on fait les bonnes rencontres et les bonnes impressions. Ça reste plus prédominant, plus prévalent.
Et j'avais un témoignage d'une professeure qui a dit: si ta mère est femme de ménage, tu resteras femme de ménage. Si ton père est avocat, tu resteras avocat. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais waouh, c'est choquant, mais à la fois, c'est la réalité, en fait. Moi, j'ai grandi vraiment dans un système où j'ai dû apprendre à me taire et à grandir plus vite que mon âge, entre guillemets. Mon premier job, c'était à 15 ans. C'était suite à mon stage. En fait, je travaillais j'étais en cuisine et le responsable cherchait des étudiants pour juillet, août. J'avais accepté parce que je me suis dit, ah, mon premier job, vas-y, fonce. Parce que je suis un lancement spécialisé, je vais me faire vite discriminer si je cherche un taf pour cet été. Voilà, c'était une opportunité parce que j'avais un bon stage, j'avais une bonne note. Ben, du coup, j'ai accepté. Et au final, en fait, je me trouvais à faire la vaisselle.
C'est clair qu'on n'est absolument pas préparé ni pour l'université ni pour le travail. Même si on a le droit de travailler à partir de 16 ans, on n'est ni préparé pour l'un ni préparé pour l'autre. Et l'écart se fait ressentir dès la première année universitaire. On se retrouve avec beaucoup plus de travail, un travail qu'on n'a même pas appris à gérer de base et un système qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas étudié. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il faut déjà, dès la secondaire, renforcer les cours de citoyenneté.
Est-ce que les jeunes est-ce que les jeunes, justement, mériteraient à gagner plus de valorisation, enfin d'être mieux considérés? À mon sens, oui. J'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas cette logique opérationnelle de j'apprends en faisant. En fait, maintenant, je dois connaître avant ou préalablement. Pas besoin de multiplier les stages pour pouvoir exercer une fonction, mais c'est juste qu'il y a tellement peu d'opportunités de travail et tellement d'individus qui candidatent que c'est une manière de faire concurrence entre ceux-ci pour pouvoir écrémer.
Les stages, c'est toujours très très intéressant parce que pour ceux qui veulent se faire un réseau, c'est déjà un très bon début. Pour ceux qui veulent se former, c'est un très bon début aussi. C'est toujours très enrichissant et c'est plein de rencontres. Maintenant, je pense que les stages doivent quand même être rémunérés parce que 3 mois de stage, par exemple, ou plus, ou moins, n'importe, mais non rémunéré, c'est dur.
Il faut qu'on s'interroge sur la convertibilité des stagiaires en employés, parce que je pense qu'elle n'est pas aussi grande que ça. Je pense que les stagiaires ont plus tendance à trouver un emploi dans un autre organisme après leur stage qu'au sein de l'organisation en elle-même. La précarité, pour moi, c'est égal à l'incertitude. C'est l'incertitude en matière de projection à l'avenir, au sens que c'est un projet qui est défini dans le temps, donc qui n'est pas indéfini, justement. Et précarité de par aussi les conditions économiques que procure le stage, en l'occurrence, étant donné qu'il reste rétribué en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il est bon de rappeler que pas mal de stagiaires, ceux qui ne sont pas payés et certains qui sont payés, bien évidemment, sont en soi des individus pauvres techniquement, étant donné qu'ils sont rétribués, pas rémunérés, mais rétribués, en dessous du seuil de pauvreté. Il est bon de le rappeler. Certains peuvent faire usage de ressources extérieures de leur famille, d'autres pas. Donc, voilà. Mais précaire parce que, encore une fois, le stage ne garantit pas un accès à l'embauche parce que les circonstances et les conditions de recrutement qui deviennent de plus en plus compétitives au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas de voie royale, quoi.
J'ai plus envie de bosser. Non. Je dors même plus la nuit. Genre, c'est pas que je dors, genre, je pense cuisine, je dois cuisiner. Non, en fait, c'est aussi l'image. Je suis la femme. Ah, c'est bien pour elle parce que c'est bien la cuisine. Les femmes doivent apprendre à cuisiner. Et moi, je suis pas d'accord avec ça.
On voit qu'il y a une révolution numérique qui se fait. Cette révolution numérique avance super, super vite. Je pense que beaucoup de jeunes suivent, d'autres non. D'autres n'ont pas les moyens de suivre. Donc cette question doit être aussi au cœur des débats, je pense.
Après, moi, ce que je vois comme très positif potentiellement, c'est qu'avec la nouvelle révolution industrielle, comme on dit, toutes les nouvelles technologies, la productivité augmente et donc ça permet de créer les mêmes richesses qu'avant. Quand vous bossez, vous créez de la richesse en moins de temps. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas une réduction du temps de travail hebdomadaire avec le même salaire? Parce que, vous savez, quand vous comparez avec ce que vous produisiez dans les années 50 sur le même nombre d'heures et ce que vous produisez aujourd'hui, c'est beaucoup plus aujourd'hui, il y a beaucoup plus de richesse. Alors pourquoi est-ce que cette richesse doit aller seulement au patron? Pourquoi est-ce que les travailleurs, les gens qui ont cet emploi ne peuvent pas en profiter avec une réduction du temps de travail?
On peut utiliser l'intelligence artificielle pour éventuellement redistribuer certaines tâches, mais pouvoir éventuellement faire travailler moins les gens, faire travailler plus de gens. Ou alors utiliser les technologies pour créer de nouveaux débouchés, c'est vraiment des choix politiques. Le politique doit encadrer ces questions-là.
La question est toujours au service de qui se fait un progrès. une évolution. Donc ça, c'est la question fondamentale. La question en soi n'est pas est-ce que cette technologie est en soi bonne ou mauvaise, mais comment est-ce qu'elle est utilisée. Si elle est utilisée, par exemple, pour mieux contrôler les travailleurs, pour que les travailleurs, même à la maison, hein, vous rentrez à la maison, mais votre patron à 22h30 a une idée brillante et il vous appelle ou il vous envoie un petit WhatsApp en disant « Tiens, ça serait mieux que vous arriviez demain à 6h parce qu'il faut... » Non, je veux dire, il faut que les gens aient le droit de d'être tranquilles, temps de repos, déconnexion, etc. Vous bossez chez Amazon ou chez d'autres entreprises, mais vous êtes hyper contrôlés dans le magasin. Des gens qui ne peuvent pas prendre leur pause, qui reçoivent des ordres en continuation dans l'oreillette. Donc quand vous entendez ces témoignages, vous voyez comment ces technologies peuvent être utilisées afin d'en fait pousser les gens dans une exploitation encore beaucoup plus forte et beaucoup plus violente. Faut jamais oublier, quand vous allez travailler la première fois, on se rend pas compte parce qu'on a presque l'impression parfois, hein, ah, le patron vous donne une chance. N'oubliez pas que vous créez de la richesse pour le patron. Vous travaillez et il y a une partie de ce que vous créez qui va dans sa poche. Vous apportez quelque chose, vous vendez une force de travail et vous avez le droit d'être bien rémunéré. Nous devons demander que les avancées, le progrès technologique, ben, profite aux gens qui créent cette richesse, c'est-à-dire le jeune qui obtient son premier boulot.
Moi j'ai eu deux jobs étudiants, j'ai même pratiqué les deux pendant un temps en même temps. Ouais, mais c'était pas facile, c'est toujours pas facile aujourd'hui parce que je continue quand même un certain nombre de jobs étudiants qui me demandent de me lever quand même assez tôt. Genre 4h, 5h du matin, donc c'est pas facile.
Des gens ont besoin de jobber à raison de 40-50% du temps pour pouvoir effectuer leurs études. Donc ça pose la question de l'accessibilité des études supérieures, ça pose aussi la question de la pertinence des études supérieures, parce que ça reste une exigence, mais ce n'est plus... elle est nécessaire, mais elle est plus suffisante. Moi, je me dis à chaque fois, Coco, t'as fait deux masters, moi j'ai fait des jobs de nuit, j'ai travaillé à l'aéroport, j'ai travaillé dans le milieu de la nuit, etc. Les jeunes sont les plus représentés dans ces secteurs-là, et on le fait parce qu'on garde en tête que non seulement on en a besoin, on se dit c'est une phase. Ça va passer. À un moment donné, j'arrive enfin à faire cette place, à saisir celle-ci. Mais cette phase de précarité, elle se prolonge encore avec le temps et elle est vraiment préoccupante de par le fait que c'est pas un phénomène individuel.
Vous savez, quand on parle d'investir dans l'éducation, dans l'enseignement, quand vous êtes aujourd'hui à l'université ou à l'école, vous voyez souvent l'état vétuste des bâtiments, le manque de profs. Vous savez qu'il y a une responsabilité européenne là-dedans. Il y a ce qu'on appelle les lois de l'austérité, les lois budgétaires, si on veut, qui obligent aux États de couper dans leur budget et donc de ne pas investir dans le social. Comment ça se passe? On dit tout simplement, écoutez, vous devez réduire votre dette, votre déficit, même si cette dette, elle est de loin inférieure à ce qu'ont les États-Unis ou le Japon. Hein. Mais donc, on a des chiffres arbitraires et on va dire aux États, coupez un peu dans ça, coupez un peu dans ça.
Et le CDI, est-ce que c'est toujours un rêve?
La tendance est plutôt à « je ne me vois pas faire un seul job toute ma vie ». Donc le CDI, dans quelles conditions, c'est à voir. Mais je sais que la tendance, en tout cas générale, des étudiants, enfin de la jeunesse, c'est j'ai pas envie de travailler dans un seul domaine toute ma vie. Est-ce que je peux comprendre d'ailleurs? Je pense que ça pourrait être barbant, devoir faire la même tâche tout le temps, travailler plusieurs décennies pour espérer avoir une promotion, tout ça. C'est pas le truc le plus alléchant.
Donnez-moi un CDI, on peut en parler si vous voulez, on va prendre un café, si vous avez un CDI ou deux, on peut négocier. Voilà, c'est un Graal encore pour certains, c'est même un Graal pour moi, parce que c'est un combat aussi, enfin je veux dire, c'est limite un acquis social. Je remercie ceux qui se sont quand même battus pour obtenir ces sortes de formes de travail qui sont pas précarisantes. C'est l'issue d'un combat, c'est pas le secteur privé qui s'est dit, nous allons vous gratifier de ces conditions avant. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Voilà, le travail doit offrir une capacité de se projeter à l'avenir, doit être sécurisé. Et les Belges aiment bien la prédictibilité, et je suis dedans, on aime bien pouvoir prédire, prévoir, organiser, on en a besoin, et c'est ce qui permet d'atténuer notre stress. Au moins on est stressé, au mieux on vit, au plus longtemps on vit, et voilà, et au plus on peut penser à d'autres choses que le fait de se sécuriser et le fait de penser au travail. Donc non, on a besoin de ces formes de travail, même la jeunesse, elle a besoin de ces formes de travail, voilà.
On m'a jamais fait rêver et je me suis jamais fait rêver moi-même en fait, parce que je me suis dit c'est fait pour moi en fait, la cuisine, un torchon, une raclette et une spatule, c'est pour moi en fait, c'est fini. Et c'est juste qu'à 15 ans, 16 ans, je me suis rendu compte que en fait non, j'ai aussi l'art qui m'intéresse beaucoup et que je veux m'orienter vers ça.
Mais j'ai l'impression du coup que on joue un peu avec notre estime de soi, parce qu'on est là, on a le désir de se prouver, et c'est là que s'interroge aussi les jeunes, est-ce que les jeunes veulent travailler ou est-ce que les jeunes sont fainéants et tout le charabia autour de ça. Mais voilà, t'as quand même, généralement quand t'es jeune, t'as ce stress de j'ai envie qu'on me perçoive positivement, donc je vais faire tout mettre en œuvre. Quitte à accepter des tâches qui sont vraiment peu intéressantes, mais voilà, ça casse. Ça casse parce que du coup, c'est vraiment la crise existentielle de la jeunesse, c'est vraiment l'incertitude de la jeunesse. C'est, je fais toute cette série de choses. On me donne tous ces compliments. C'est valorisant, c'est cool, c'est chouette, c'est nice, nanana. Mais je peux toujours pas me projeter dans le fait de vouloir éventuellement acheter une maison à l'âge de mes 28 ans ou 29 ans. J'arrive pas à me convertir. On me donne toujours pas ma chance, entre guillemets.
C'est la fin de cet épisode de L'Europe est à vous. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez le retrouver sur notre site, notre application et toutes les plateformes de podcast. Merci et à samedi prochain.